Bon, tu reviens sur la fameuse prestation canadienne d'urgence, là, parce que on comprend que c'est urgent, ça a été prolongé, mais ça sera pas éternel, ça aussi, là.
Non, puis à l'automne, on parle d'une deuxième vague. Puis pourtant, on n'a pas réussi à établir une espèce de modus operandi en 2020 avant les vacances. Et il y a certaines choses qui doivent changer, parce que j'ai des témoignages chaque jour de gens qui se disent « il y a des mécanismes qui ne fonctionnent pas ». Par exemple, si tu as droit à l'assurance chômage dans la vie, puis que l'assurance emploi, puis que tu avais déjà droit dans le processus normal de tes affaires, comment se fait-il qu'on n'y adhère pas pour l'instant? Parce que tous les chômeurs ont d'abord la PCU, et là on a étiré la PCU. Est-ce qu'on va étirer la PCU encore et donner en plus le chômage? Donc il y a des gens qui pourraient techniquement passer plus d'une année à être payés à un certain montant qui ne correspond pas nécessairement à ce qu'il voudrait. Donc, le premier montant serait la PCU qui n'est pas en lien avec le salaire gagné. Et après ça, l'assurance-emploi commence. Deuxième point important, il n'y a aucun lien avec la rémunération habituelle, si bien qu'il y a des gens qui ont fait de l'argent avec la PCU. Je te donne un exemple. Une dame m'écrit ce matin, elle dit « Écoutez, là, moi, je suis dans un club de retraités. Il y a plein de gens là-dedans là, qui dans le fond, ont un petit emploi pour le plaisir. Donc, l'année passée, ils ont gagné 5-6 000. Puis là, donc, ils gagnaient quoi? 400-500$ par mois. Puis là, la PCU, ils ont perdu leur emploi, mais on les force pas à retourner, c'est normal, mais en même temps, on leur envoie 12 000$. Fait que mon voisin Gérard a fait 5 000$ l'année passée en travaillant, et là, on y envoie 12 000$ en restant chez eux. Puis il répond, il dit, ben quoi, pourquoi je me gâterais pas dans le plat de Paparman? Donc ça, il y a un point là-dessus. Deuxième point, côté étudiant, il y a un drôle de point, c'est que ceux qui ont perdu leur emploi à temps partiel chez Jean Coutu ou chez Brunet ou à pharmacie ou peu importe, et qui gagnaient un 6 à 8 000 par année, sont tombés sur la PCU irrégulière. Et donc, on les a laissés sur la PCU irrégulière, et là, on arrive jusqu'en septembre sur la PCU irrégulière. Donc, tu as des étudiants qui auraient gagné 6, 7 000, 8 000 pendant leur année, qu'on leur envoie 12 000. Le troisième point qu'il faut régler avant septembre, c'est le gouvernement dit on ne peut pas forcer les gens à retourner travailler. Ça, c'est vrai, mais on pourrait les inciter. Et là, l'opposition s'est opposée, évidemment. Et donc, il n'y a aucune contrainte, comme l'assurance-emploi, à faire des démarches de retour sur le marché du travail. Et ça, plusieurs entrepreneurs m'écrivent pour se plaindre, parce qu'ils disent si mon employé peut gagner 1 000$ par 4 semaines, tout en touchant la PCU, il dit « j'ai compris mes employés ». Écoute, Pierre-Yves, ils t'écoutent, ils font les comptables d'eux-mêmes, puis ils font des calculs, puis ils se disent « je peux gagner 3 000$ en travaillant à temps partiel, ou 2 000$ en restant chez nous, ou bien 2 500$ en venant travailler à temps plein ». C'est sûr qu'ils restent chez eux. Ils disent « j'ai compris, mais là, j'ai besoin de main d'œuvre ». Et ça prendra surtout, en quatrième point, un plan pour la prochaine fois. Parce que la prochaine fois, on l'a dit au gouvernement, il n'y aura pas d'arrêt de l'économie. On peut pas revivre ça une deuxième fois. Alors, ceux qui comptent sur la PCU après septembre, il faudrait que le gouvernement commence à envoyer un signal, à dire « bon là, bonjour tout le monde, on est en juin, on vous donne encore 2 mois de PCU, mais préparez votre plan pour septembre ». Parce que là, c'était comme la dernière fois, ou peut-être, pour ceux qui pourront retourner travailler. Parce qu'il faut pas oublier qu'en septembre, d'après ce qu'on comprend, nos enfants retournent à l'école. Et c'était un des derniers freins pour beaucoup de parents, parce qu'il y avait pas de garde ou pas d'école. Donc là, une fois qu'on retourne à l'école, on veut affronter la pandémie dans le cours normal des affaires. Donc, le gouvernement a créé un précédent avec la PCU et le problème futur, ce sera quand il y aura des problèmes dans la société ou un besoin dans la société, les gens pourront lever la main et dire « Hey, vous avez bien donné 2 000$ par mois sur une période de 24 semaines en 2020, pourquoi vous ne pouvez plus le faire maintenant? » Ça deviendra un précédent.
Intéressant. Parle-moi du Fonds de solidarité de la FTQ là, qui confirme ce que tu avais pas mal anticipé, là, c'est-à-dire le rachat d'actions par beaucoup, beaucoup de Québécois.
Oui, parce que d'habitude, il y a un rachat normal de retraités d'environ 750 millions de dollars. Et là, on confirme dans la presse qu'effectivement, ce sera plus élevé parce que les gens ont fait de l'arbitrage. Et il y a là-dedans un conflit éthique de toutes les parties. Il y a les retraités qui me disent, Pierre-Yves, est-ce que je devrais retirer mes fonds du fonds avant le 30 juin, c'est-à-dire la réévaluation? Ben, évidemment, là, la bourse a remonté, c'est un peu moins pire, mais ceux qui ont profité vraiment de la situation, ce sont ceux qui ont retiré quand les marchés avaient baissé de 30-35%. Ils profitaient du fait que leur part du fonds était encore évaluée à la valeur du 31 décembre. Et il y a bien beaucoup de gens qui se sont dit « Écoute, je me sens éthiquement pas correct de faire ça parce que je sais dans le fond que je profite du fait qu'on réévalue pas au jour le jour des placements privés puis des placements en bourse dans le fond. Et donc, je suis en train de profiter d'un arbitrage très conscient. » L'autre point, ce sont les conseillers. Les conseillers m'écrivaient, me disaient « Pierre-Yves, là j'ai un débat éthique. Dois-je dire à mes clients de retirer leur fonds de la FTQ pour l'instant? » parce qu'il dit mathématiquement, dans le temps de la COVID, c'était le temps, mais en même temps, j'étais en conflit d'intérêt, parce que si je leur dis ça, c'est pour qu'ils s'en viennent sous gestion chez nous. Et donc, j'ai un biais de les conseiller là-dessus, même si c'est pour, dans leur intérêt à court terme. Donc, il y a eu tout ce débat-là. Il y en a qui ont dit, j'ai pas envoyé de lettre à mes clients, j'en ai parlé au téléphone parce que c'est délicat. Et le fond de la FTQ, faut leur donner un coup de chapeau quand même, faut leur dire bravo pour une chose. Ils auraient pu, au fond, réévaluer la part pendant la COVID, puis dire, écoutez, là, on va colmater la plaie, puis on va réévaluer la part. Mais ils ont respecté leur politique d'évaluation. Ils ont peut-être dit, écoute, pendant la COVID, ça va coûter tellement cher évaluer les parts, puis c'est tellement sur court terme, puis il y a des gens qui peuvent pas retirer, qui sont pas retraités ou qui sont pas assez vieux. Donc, on va garder quand même nos déposants, et sur le long terme, ils vont se faire quand même de l'argent. Donc, mais c'est intéressant de voir qu'il y a eu un arbitrage financier massif des gens qui avaient des parts à la FTQ.
Juste en terminant, j'ai pas eu le temps de tout vérifier ça, là, mais beaucoup d'infos qui rentrent sur des plans de coupure de postes chez Loto-Québec.
Mais écoute...
Puis ça s'en vient, là. Puis ça serait important, là. C'est pas quelques mises à pied, là. C'est plusieurs mises à pied. Je peux pas dire dans quel secteur exactement, mais on sait que Loto-Québec, là, le casino est fermé, d'abord.
Oui.
Les casinos sont fermés, les bureaux, ben là, il y a du télétravail et tout ça, là, mais en gros, là, ça s'en vient.
Puis tu sais, les machines à poker dans les bars, Paul, c'est à peu près là, dans les horizons du 30 à 33 % du revenu de l'Auto-Québec d'exploitation. T'sais. Le tiers, c'est les machines à poker, les bars sont fermés. Donc, l'Auto-Québec, s'ils font des compressions chez l'Auto-Québec, c'est probablement qu'ils veulent donner de l'argent au gouvernement, puis cette année... ça risque d'être beaucoup moins bon que prévu. Donc, le gouvernement, en plus de souffrir de la COVID, souffre de sa société d'État qui ne peut pas vendre autant de billets. Il y a quelqu'un qui me confiait que 2 jours après le début de la COVID, il y a des clients qui appelaient. Je pourrais pas acheter mon Lotomax. Je pourrais pas acheter mon gratteux. Je pourrais pas acheter... Mais il y a des joueurs qui voulaient jouer. Et je salue le monsieur dans le journal ce matin qui a gagné 2 fois le gros lot.
Oui, ça. Mais t'en as qui ont gagné puis qui peuvent pas encore réclamer leur prix, là.
Hey, t'imagines-tu, Toto?
Je t'imagine, là, mettons que t'as gagné, je sais pas, le 5 000 là, ou mettons, en fait, tu peux pas l'encaisser là où tu l'as acheté, là. Et on te répond, attendez, monsieur.
Imagines-tu, t'as ton billet sous vide chez vous. Là, tu dors pas la nuit, faut pas que je passe au feu. Là, tu t'en vas à la banque, tu veux t'ouvrir un coffret de sécurité pour aller mettre le billet dedans. Hey, c'est une option quand même.
Salut, bonne fin de semaine, bonne été à toi aussi. Il est 7h22.